Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux, dernier numéro de cette troisième saison. Alors merci infiniment pour votre fidélité à ce rendez-vous des amoureux des animaux. Voici le programme pour terminer en beauté, je l'espère. Le chat est incontestablement l'animal préféré des Français. Mon chat, mon amour sera donc le thème de cette première partie d'émission. Appelez-nous au standard 0826 300 300, vous connaissez le numéro du standard de Sud Radio, pour nous raconter vos histoires d'amour avec vos chats. Côté faune sauvage, en écho à cette actualité où un loup a été repéré en Normandie, une spécialiste des loups, le docteur Véronique Ludeny, nous expliquera le phénomène de dispersion, c'est-à-dire leur capacité à gagner de nouveaux territoires. Enfin, vous découvrirez une activité sportive à pratiquer avec son chien, le sauvetage nautique. Voilà un programme rafraîchissant. On vous attend bien sûr au standard de Sud Radio. Je répète le numéro, le 0826 300 300. Et cette émission est réalisée, et oui, par Maxime Sénat.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Bonjour Sandy Descorcia, je suis heureuse de finir cette saison avec vous, vous qui êtes une amoureuse des chats et qui nous dispensez très régulièrement vos beaux conseils pour éduquer nos chats.
Et bonjour Natacha, je suis ravie moi aussi.
Alors mon chat, mon amour, une formule qui résume bien la relation que beaucoup d'entre nous entretenons avec nos chats. Plus de 14 millions de chats en France. Appelez-nous au 826 300 300 d'ailleurs pour témoigner de votre relation si particulière que vous avez pu nouer avec votre chat. Sandy, qu'est-ce qui caractérise le plus souvent notre relation à nos chats selon vous ?
Mais ça dépend un petit peu ce qu'on recherche déjà à la base en ayant un chat. Et puis, vous savez, des fois, c'est le chat qui choisit. Ça, il y a beaucoup d'histoires où le chat est venu vers un humain. Et ça, on a beau dire, mais on dit que le chat, quelque part, nous a choisi. Nous, on se sent un peu privilégié. Et comme le chat est un animal qui choisit effectivement son humain favori, moi, je suis désolée, mais je pense qu'on est un peu fiers d'être choisi par un chat.
C'est vrai. Donc, ça flatte notre ego, il faut le dire.
C'est pour ça que c'est une relation qui est quand même assez fusionnelle, assez intense. Et on a beaucoup aussi d'histoires de gens qui nous disent « mon papa ne voulait pas de chat, il en voulait pas ». Et puis au final, dès qu'il y a un chat à la maison, c'est le papa qui devient fanatique du chat et qui est complètement amoureux.
C'est très drôle ce que vous racontez là, parce qu'effectivement, quand dans une famille on prend un chat ou quand un chat arrive, parfois, par hasard, on trouve un petit chaton un peu abandonné, le chat arrive dans le jardin et on le récupère. Le chat choisit finalement, comme vous le disiez, la personne de la famille à qui il va s'attacher. Ils aiment bien avoir une personne en particulier, non Sandy ? Qu'en pensez-vous ?
Souvent. Ouais. Quand il y a une personne qui, on va dire, représente, alors, terme complètement professionnel, on appelle ça la ressource principale, mais on va dire que c'est la personne favorite du chat, c'est celle tout simplement qui va le plus dans ce que le chat a envie, soit par rapport au câlin, à l'approche, soit par rapport, oui, alors à la façon de donner de la nourriture, bien sûr, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi le jeu, et à l'inverse, ça peut être aussi quelqu'un assez calme, qui a tendance à laisser un petit peu le chat tranquille, et ça peut énormément plaire. Donc le chat choisira dans une famille la personne avec qui, par exemple, il va passer la nuit, il va dormir sur le lit. Ça, c'est très souvent, et souvent vers les enfants d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant.
Eh bien, nous avons un premier témoignage au standard de Sud Radio. C'est Justine qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Justine.
Bonjour.
Justine, vous êtes une amoureuse des chats ?
J'adore les chats.
C'est vrai, j'adore, vous en avez combien ? Plusieurs ?
J'en ai quatre.
Ah oui.
Oui, j'en ai quatre. Ouais. Ah, ils sont adorables. Hein.
Ouais. Et comment ça se passe alors ? Est-ce que ce sont eux qui vous ont choisi, comme on le disait à l'instant ?
J'en ai deux qui m'ont choisi et j'en ai deux que j'ai choisi.
Et ça se passe de la même manière avec les quatre ?
Ah bah oui, il n'y a pas de différence. Hein. C'est comme on les traite comme les enfants. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein.
Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette relation que vous nouez avec vos chats, Justine ?
Les chats, ils sont câlins, ils sont toujours là, en train de demander des caresses, puis c'est pour le bien-être aussi, enfin, je veux dire, tout ce qu'on leur donne, en fait, ils nous le rendent, donc...
Qu'est-ce qu'ils vous apportent le plus, en fait ? Puisque vous parlez de bien-être, et c'est souvent un mot qui revient dans la bouche des propriétaires de chats, les chats nous font du bien. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous apportent de plus, de plus particulier ?
Ah bah déjà les ronronnements, enfin ça fait du bien quoi. Enfin, et puis le fait qu'ils demandent des caresses, de l'attention, ils se frottent à nous. Enfin ils sont adorables.
Et voilà, est-ce que vous remarquez vraiment des différences de tempérament entre vos quatre chats, vraiment avec des individualités très particulières,
hein? Ah oui, ils sont tous différents. Ça c'est.
Et est-ce qu'il y a, selon vous, et d'ailleurs je pose aussi cette question à Sandy, est-ce qu'on est, nous, êtres humains, plutôt chien, plutôt chat, vous voyez, est-ce qu'il y a des profils types pour être un bon maître, même si j'aime pas trop ce mot, maître de chat? Parce qu'en fait, on n'est jamais maître d'un chat, d'ailleurs.
Bon, un bon profil, non, je n'irais pas dire un bon profil, mais... Plutôt, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui préfèrent les chiens qu'aux
chats. Vous avez toujours eu des chats, Justine ?
Moi, ça fait 10 ans que j'en ai, oui.
Ça fait 10 ans ?
Oui, 10 ans que j'en ai. Et puis, je m'occupe des fois avec une amie, on s'occupe de chats errants, donc qui sont abandonnés, qui sont en mauvais état, on les nourrit. Et voilà, enfin, on adore les chats, quoi.
Donc, vous êtes une vraie passionnée. Allez, dites-nous comment s'appellent vos quatre minous, Justine ?
Alors, donc j'ai Canaille.
Oui.
C'est quatre mâles. Donc Canaille, Scotty,
oui.
Zizou et Bambi.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Justine, pour ce beau témoignage. Vous illustrez bien, justement, la thématique de cette émission. Mais avec vous, ce n'est pas mon chat, mon amour, mais mes chats, mes amours, visiblement. C'est parfait. Merci d'avoir, justement, témoigné sur l'antenne de Sud Radio. Sandy Descorsia, ouais. Vous qui êtes éduchatrice, et oui, éduchatrice, c'est un néologisme, mais qui a tout son sens, parce qu'un chat, ça s'éduque aussi. Est-ce qu'il y a un profil pour être un bon, entre guillemets, mais maître de chat?
Oh, je dirais que ça dépend déjà du chat, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus le feeling avec les chats plutôt qu'avec les chiens. Je pense qu'il faut s'adapter au caractère du chat qu'on a en face. Il y a des chats qui vont être très demandeurs d'attention, de câlins, et à l'inverse, et ça c'est peut-être la majorité des chats, qui vont être au contraire un petit peu plus distants, et dans ce cas-là, les personnes qui vont être plus calmes, plus distants aussi, vont attirer les chats. Et après, il y a un mystère que je n'arrive à expliquer. Il y a certaines personnes qui attirent tous les chats. Ça, je ne peux pas l'expliquer.
Dont vous faites partie.
C'est vrai qu'on a, une compréhension, un feeling, et peut-être c'est dans l'approche et ça pourrait s'expliquer, mais voilà, moi je ne l'explique pas toujours que les chats viennent vers nous plutôt que vers quelqu'un d'autre.
Alors on a à nouveau un autre témoignage au standard de Sud Radio, car ce sujet vous fait bien sûr réagir. Mon chat, mon amour, c'est Amélia qui souhaitait s'exprimer sur ce thème qui compte pour tous ceux qui, comme nous, aimons les animaux. Bonjour Amélia.
Bonjour à vous.
Merci
beaucoup de vous avoir.
Ben écoutez, c'est une satisfaction partagée, Amélia. Vous aussi, vous aimez les chats, j'imagine.
Ah oui, j'adore ça. J'en ai 3,5, on va dire.
Ah, alors et c'est quoi le demi? Expliquez-moi ça.
Alors le demi, en fait, j'en ai 4 et le quatrième se partage entre mon voisin et moi.
Ah, et tiens, intéressant.
Il va chez lui, en fait, depuis qu'il est tombé gravement malade.
Depuis que votre voisin est tombé malade?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Donc, il est chez lui, il passe, et puis de temps en temps, il vient me faire un coucou en me disant « t'inquiète pas,
je t'oublie pas. »
Je suis toujours là, voilà, et puis il vient chercher ses petites friandises, ses petits câlins. Donc voilà, donc c'est très rigolo, et je le laisse faire parce que je pars d'un principe que les chats qui font quelque chose, c'est qu'il y a une raison derrière, donc je lui fais confiance.
C'est intéressant. Ouais. Restez bien sûr en ligne avec nous, Amélia. Sandy, le témoignage d'Amélia, il révèle aussi l'une des raisons qui font que les chats nous fascinent, c'est leur capacité à ressentir les choses et notamment à ressentir les faiblesses, les moments de détresse chez l'être humain.
Absolument, on a beaucoup de témoignages, différents animaux, mais les chats en particulier, qui vont vers des gens, alors soit qui vont mal, qui sont tristes ou qui sont malades, ou voilà. Alors nous, on a plein d'explications effectivement scientifiques de pourquoi le chat fait ça.
Alors justement, mais... pourquoi le chat fait ça?
C'est intéressant effectivement. Donc en fait, le chat remarque, par exemple, la lecture du visage, les petits mouvements, les micro-mouvements. Si on est fâché, le chat arrive à le voir. Si on est content, le chat le voit. Et quand on est malade ou triste, on a tendance à faire des mouvements différents de d'habitude. Par exemple, on va ralentir notre façon de marcher, même notre façon de respirer. Tout ça, ça va être changé. Et lui, le chat, il le sent. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais il le sent. Et comme ça le perturbe un petit peu...
Mais il pourrait le sentir et s'en moquer totalement. Parce que là, Dans votre témoignage, Amélia, on sent bien que votre chat a peut-être ressenti que votre voisin avait besoin de sa présence.
Oui, je pense. Et puis, je pense qu'au fond de lui, il savait que je n'étais pas toute seule, parce que j'en ai quand même trois.
Oui.
Et je trouve qu'il veille beaucoup sur moi, parce que moi, je sais que la chaleur, une certaine température à l'extérieur l'été, je ne la supporte pas. Mais je ne la sens pas venir, alors que mes chats le sentent très bien. Et ils viennent auprès de moi et ils miaulent très fort. Et ils m'amènent dedans. Donc, je suis toujours persuadée qu'ils veulent des croquettes ou de l'eau ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout, parce qu'une fois que je suis dedans au frais, ils repartent dehors. Et si j'ai le malheur de ressortir, en fait, ils me ramènent à l'intérieur.
Oh, c'est beau.
Donc, c'est qu'ils sentent que... Et c'est vrai que très rapidement, je m'aperçois que quand je veux sortir le nez dehors, je ne peux pas parce qu'il fait trop chaud pour moi et que ça n'aurait pas été bon. Donc, je reste à l'intérieur au frais. Et il y a plein de choses comme ça qu'ils font le matin. Donc, des fois, je m'en amuse. C'est pas très sympa. Je m'en amuse beaucoup. Comme le matin, par exemple, je vais faire semblant de dormir. Et donc, ils vont venir à tour de rôle, alors me taper avec leurs pattes, me grignoter le bas de la joue. Le dernier, s'il voit que je me lève pas, il va mettre son nez sous mon nez à moi pour voir si je sens. Ils vont me remuer avec leur tête pour voir si je réagis. Et puis au bout d'un moment,
ce sont vraiment vos anges gardiens quand même, hein, ces petits minous là.
Ah oui, c'est des amours, c'est des vraiment. Mais quand je pars, je leur dis, je m'en vais, parce que si je leur dis pas, ils ont une réaction un peu humaine, ils vont être agacés, je le vois à leur queue, parce qu'elles remuent pas du tout pareil. Et si mon mari arrive, et ben en fait ils vont me bouder, ils vont être qu'avec mon mari, et moi ils vont même pas s'approcher de moi. Donc c'est vraiment.
Pour vous montrer leur mécontentement.
Ouais, c'est vraiment, ils ont une réaction humaine. Enfin, pour moi, c'est mes bébés, donc je les aime, je les adore. Et puis, je trouve qu'ils me le renvoient très bien. Ils sont extraordinaires. Je les comprends rien qu'en les regardant. Ah non, ils sont magiques, mes chats.
Ben écoutez, effectivement, puisque vous nous dites. Dites-moi, est-ce que vous avez discuté avec votre voisin que visite votre chat, justement, de ça?
Non, j'ai sa femme qui vient me voir de temps en temps parce qu'elle se demande où passe le chat, puisqu'il passe le trois quarts du temps chez elle. Donc, quand elle ne le voit pas, elle se demande
elle
où il est.
Elle s'inquiète, d'accord.
Voilà, donc je lui dis qu'il est chez moi et de ne pas s'inquiéter qu'il va revenir. Mais je suis... Non, il est beaucoup plus apaisé. C'est un monsieur qui est beaucoup plus apaisé, elle aussi. Et puis, il le traite très bien parce qu'il n'est pas du tout maigre. Il est bien portant, il lui faut en manger et tout. Donc, non, je suis vraiment sereine. Je me dis que s'il est là-bas, c'est qu'il doit faire son petit job. Et quand son job sera fini, il reviendra. J'en suis convaincue. Donc après, voilà, mais ça se passe très bien entre voisins. Puis je sais qu'il est là, qu'il est bien traité, donc ça me va.
Eh bien écoutez, Amélia, moi je vais retenir une phrase de ce que vous venez de nous raconter, même si tout est beau à entendre. Vous avez dit « mes chats sont magiques » et je crois que ça résume assez bien finalement ce que ressentent beaucoup de propriétaires de chats, beaucoup d'êtres humains qui vivent avec des chats. Les chats sont des êtres étonnants. Merci Amélia pour ce magnifique témoignage. Sandy, dans le témoignage d'Amélia, elle nous parle de décodage. Elle dit « finalement, j'arrive à décoder mes chats simplement en les regardant ». C'est important justement cette compréhension de ce qu'est le chat en tant qu'individu et comment on arrive à les décoder, comment on apprend à les décoder.
Alors oui, c'est important puisqu'on peut établir une meilleure relation avec son chat en essayant de le comprendre. Et c'est pas étonnant puisque on arrive à lire ce qu'on appelle le langage corporel de son chat. Le chat s'exprime beaucoup grâce à ses oreilles, ses yeux, sa queue, son corps. On sait s'il est content, s'il est apeuré, s'il est fâché. Et plus on passe du temps avec son chat, plus on arrive à le comprendre. Et après, il y a une lecture qui appartient, comme tu dirais, entre chaque propriétaire et chaque chat. Et par exemple, le miaulement, il faut savoir que c'est réservé à l'humain. Et un chat avec un humain va avoir un miaulement pour lui demander quelque chose. Et peut-être qu'un autre humain qui ne connaît pas ce chat ne comprendra pas ce que veut le chat. Mmh. C'est pour ça que c'est un code qui est un petit peu... On appelle ça le code secret entre le propriétaire et son chat.
Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le témoignage de notre auditrice Amélia, c'est quand elle nous explique le moment où elle dort et où les chats viennent la voir. C'est vrai que la phase de sommeil de l'être humain est toujours un moment important pour les chats où ils ont souvent tendance à interférer un peu pendant cette phase qui est censée être une phase de repos pour nous.
Bah, théoriquement, pour nous, oui, mais c'est vrai qu'on a des chats qui, dans leur instinct, ont tendance à se réveiller quand les proies dehors sortent, et souvent, ça tombe au milieu de la nuit, vers 3-4 heures du matin. Donc, pour nous, c'est pas l'idéal. Donc, on a tendance à conseiller de bien faire jouer son chat en amont, avant d'aller dormir, histoire qu'il garde son énergie pour quand on sera réveillé, et qu'il évite, comme ça, de nous réveiller la nuit, et de lui fournir, par exemple, des gamelles ludiques où il pourra jouer avec ses croquettes. Comme ça, la nuit, ça l'occupera longtemps sans venir forcément nous réveiller pour voir ce qu'on fait.
Tiens, vous, Sandy, qui êtes comportementaliste pour chats, vous abordez un point aussi qui est important, c'est la nutrition, l'alimentation de nos chats. Comment on organise leur journée avec l'alimentation pour que ce soit le plus adéquat pour eux ?
Bah alors ça, c'est une question qui peut être posée aussi à son vétérinaire traitant, parce que ça va dépendre, hein, bien sûr, de comment le chat doit être nourri. Mais pour la plupart des chats, c'est vrai qu'on peut les mettre avec la possibilité de faire plusieurs petits repas dans la journée quand ils ont envie. C'est ce qu'on appelle à volonté. Et comme ça, l'animal choisit lui-même de dire, bah, tiens, je vais aller manger un petit peu. Oui. Ça évite qu'il ait besoin de nous demander à nous. Après, bien sûr, comme je dis, il y a des cas particuliers, il faut toujours demander au vétérinaire ce qu'il en pense. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des chats qui s'occupent comme il le ferait dans la nature.
À volonté, on précise bien, ça ne veut pas dire autant de croquettes qu'ils veulent.
Non, c'est une dose
voilà.
Répartie.
C'est la ration répartie. Oui, non, parce que sinon, il y a aussi de l'obésité chez les chats, on est bien d'accord.
Oui. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des chats qui ne savent pas se réguler, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que plus il y a de croquettes, plus ils vont manger parce qu'ils s'ennuient, ou parce qu'ils ont faim, ou parce que ceci. On a des chats qui savent se réguler, d'autres non. Donc, il faut adapter en fonction de son chat. Et puis après, je rappelle que le chat chasse dehors par faim, mais aussi par plaisir.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lui donner du jeu aussi pour qu'il puisse se dépenser et s'occuper.
Et on ne dispute pas son chat qui revient avec une souris, même si c'est pas forcément très plaisant d'avoir la souris morte ou pas d'ailleurs au pied de son lit le matin, on est d'accord.
Absolument, ça sert à rien de le fâcher, il comprend pas le pourquoi du comment, la punition, et c'est vrai que c'est son instinct, hein, malheureusement, donc voilà.
On va maintenant donner la parole à Lisa qui elle aussi a composé le 0826 300 300. Bonjour Lisa.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission.
Merci beaucoup, Lisa. Mon chat, mon amour, ça vous parle comme thématique ?
Oh que oui. Oh que oui.
Racontez-nous.
Oui, alors c'est un petit chat que j'ai eu à un mois et demi. Qui est très jeune. Très jeune, oui. Dans la paille.
Oui.
Donc je me suis dit, est-ce qu'il a tous les décodages ? Je rassure, vraiment, il a tout.
Ça fait combien de temps qu'il est à vos côtés maintenant ?
Ça va faire bientôt 5 ans.
D'accord. Donc maintenant, c'est un beau chat adulte.
Ah oui, tout à fait.
Qui n'a pas du tout pâti du fait d'avoir visiblement été sevré très tôt et avant l'âge normal du sevrage.
Ah oui, absolument. Je me suis vraiment posé la question, mais bon. Un mois et demi, il sautait sur la poignée de la porte pour l'ouvrir et descendre au garage.
Mm-hmm.
Super sympa. Non, mais c'est pas grave, j'ai posé un verrou. Hein.
Et comment ça se passe, votre relation avec votre chat ? Comment s'appelle-t-il d'ailleurs, Lisa, votre minou ?
Jade.
Jade, très bien. Et comment ça se passe avec Jade, alors ?
Écoutez, ça se passe avec une grande complicité. Et je sais, en le regardant, je sais ce qu'elle pense. Lorsqu'elle marche, elle est très charmeuse.
C'est vrai, oui. Elle vous fait son petit numéro.
Oui, par exemple, quand elle veut aller se coucher, parce que bon, je laisse toutes les portes ouvertes. Hein, moi, je l'aime d'une manière inconditionnelle. Elle dort où elle veut.
D'accord. Et donc, du coup, elle dort où, plutôt avec vous ?
Elle dort, elle commence sur le canapé ou sur le fauteuil de mon bureau et puis après elle vient vers moi au bout du lit et quelquefois, alors ça j'adore, elle arrive d'une manière très svelte, doucement, et elle se jette sur mon épaule avec une patte autour du cou.
Oh, c'est mignon.
Et elle ronronne.
Donc elle sait vous prendre en gros, si j'ai bien compris Lisa, c'est ça ?
Pardon ?
Je dis, elle sait vous prendre, elle vous prend par les sentiments.
Oui. Oh oui. Et quand elle veut aller se coucher, aller dans la chambre, alors elle me fait des roulades le long du couloir. Et mm-hmm. Des fois, elle a plein de miaou différents. Alors j'ai dit, mais c'est quand même pas l'heure de se coucher. Et des roulades, et des roulades, et des roulades. Et puis j'ai des petits cadeaux, hein. Vous savez, comme par exemple un lézard vivant dans mon lit.
Ah oui, c'est très agréable. Ça, c'est le petit problème avec les chats. C'est qu'ils sont très généreux en petits cadeaux de ce genre-là et on n'aime pas toujours. Oui, je suis d'accord.
Alors, c'est plein comme ça de complicité. Et alors, le matin, elle veut sortir, mais faire ses besoins que dans le jardin.
D'accord. Mademoiselle est rythmée à sa manière.
Ah oui, très, très ritualisée. Alors, elle attend que je sois réveillée. Donc, je me lève, je ouvre la porte du jardin. Et un moment après, elle revient. Et au niveau de la porte de la chambre, elle me fait un petit « maaah » des nerfs de dire « je suis là ». Elle fait le tour du lit. « Maaah, maaah ». Et ça veut dire « elle sait que je vais aller fermer la porte.
Eh bien, merci beaucoup, Lisa, pour ce très beau témoignage. Faites une petite caresse à Jade de notre part, bien sûr, de la part de l'émission Vos Animaux. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. Beaucoup de témoignages sur cette thématique, mon chat, mon amour. Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Sandy, merci aussi pour les bons conseils que vous dispensez dans cette émission depuis 3 ans, depuis le début de Vos Animaux. Vous êtes régulièrement présente à nos côtés. Et je précise aux auditeurs de Sud Radio que si vous souhaitez découvrir les conseils de Sandy, vous pouvez vous rendre sur son site internet educhatter.com. Voilà, merci à vous Sandy. À très bientôt, j'espère. À la rentrée, on compte sur vous, bien sûr.
Avec plaisir, Natacha. À bientôt.
Allez, petite courte pause de pub et on se retrouve juste après.
Sud Radio, Vos Animaux, Natacha Harry.
Merci infiniment d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez certainement entendu parler de ce loup repéré en Normandie. Mais jusqu'où ira le loup? C'est la question que je poserai tout à l'heure à ma prochaine invitée, le docteur Véronique Ludeny. Mais tout de suite, c'est la question veto.
Sud Radio, Vos Animaux, question veto.
Et c'est Yves qui a composé le numéro du standard. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Je vous écoute. Je crois que vous n'avez pas une question, mais deux questions.
Oui, la première question, c'est une plaie que mon chien a une oreille.
Oui.
Alors je lui soigne avec du dactyl, mais ça ne suffit pas, ça ne guérit pas.
C'est une plaie qui est située où, sur l'oreille?
Je ne sais pas, c'est à l'oreille, au bout de l'oreille.
À l'intérieur ou en extérieur?
À l'extérieur.
À l'extérieur, d'accord. Ça fait combien de temps que ça dure?
Eh bien, je l'ai eu, ce chien, là, parce que pour le sauver.
Oui.
Et des personnes qui s'en sont défaits, ça fait un mois que je l'ai.
D'accord.
Voilà.
Et votre chien, c'est quoi comme chien, Yves?
Un border collé.
D'accord. Alors, écoutez, une plaie qui guérit pas comme ça, le daquin seul ne va pas l'aider. Moi, je pense qu'il serait peut-être bon de montrer votre chien à un vétérinaire parce qu'à mon avis, un petit traitement antibiotique sera peut-être nécessaire pour guérir cette plaie. Parce que désinfecter, c'est bien. Bon, le daquin, c'est pas forcément... le produit que je vous conseillerais de prime abord pour désinfecter, mais c'est pas mal quand même. Mais ça ne doit pas suffire parce qu'une plaie qui a simplement besoin d'une petite désinfection quotidienne, elle va guérir en quelques jours. Si au bout d'un mois c'est toujours là, il faut, je pense, prendre les choses à bras le corps avec un traitement antibiotique très certainement. Mais c'est le vétérinaire qui pourra vous le dire en voyant la plaie. Et peut-être qu'il sera nécessaire de faire un petit prélèvement au niveau de la plaie pour préciser le traitement. Voilà.
D'accord.
Vous aviez une deuxième question, Yves.
Oui, alors, j'ai par contre une chienne à moi que j'ai depuis longtemps, et en ce moment, elle est envahie de puces.
Ah.
Alors, je me demande si est-ce qu'un bain savonné suffit pour enlever les puces.
La réponse est clairement non, Yves. Le bain savonné ne va pas suffire pour enlever les puces. Alors là, bon, le bain savonné, alors déjà, je ne sais pas ce que vous entendez par savon, hein. Il faut prendre un shampoing spécifique pour chien parce que sinon, vous allez lui brûler la peau et ça fera pire que de ne, ce sera pire que de ne rien faire.
Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, d'abord, vous pouvez lui donner un shampoing, mais avec un bon shampoing pour chien et plutôt un shampoing calmant pour la peau si elle est envahie de puces. Ensuite, il faut lui donner un traitement anti-puces. Il existe différentes sortes de traitements. soit des comprimés, mais qu'il faut donner régulièrement. C'est généralement tous les mois ou tous les deux mois, selon les comprimés. Ou sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des produits, des spot-on, des produits qu'on met sur la peau. Mais là encore, il faut un traitement régulier. Et il faut que vous traitiez vos deux chiens. Parce que si vous traitez qu'un chien, autant vous dire que ça ne sert à rien. Il faut traiter les deux simultanément et sur la durée.
D'accord.
Voilà Yves. Bon, bah, y a du boulot. Hein.
Merci beaucoup. Merci.
Je vous en prie, je vous en prie.
Merci, au revoir.
Allez, merci pour votre jolie énergie. Tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Dans notre séquence à l'état sauvage, aujourd'hui, nous allons parler du loup. La présence d'un loup a été confirmée par l'Office français de la biodiversité. Ça se passe en Normandie. C'est assez étonnant puisqu'on a l'habitude de voir le loup plutôt dans les régions montagneuses et un peu au-delà du sud de la France. Mais alors la Normandie, je crois que ça fait plus d'un siècle qu'on n'avait pas vu la présence d'un loup en Normandie. Pour nous éclairer sur cette situation, j'ai le plaisir de recevoir une consoeur, le docteur Véronique Ludeny. Bonjour Véronique.
Bonjour Natacha.
Véronique, vous êtes la grande spécialiste ou l'une des grandes spécialistes du loup. Comment peut-on expliquer la présence d'un loup dans cette région qui n'est plus du tout habituée à voir ce prédateur ?
Alors oui, ça peut paraître surprenant, mais le loup est un aventurier. Et vous savez que le loup est revenu en France dans les années 1992 parce qu'il était protégé en Italie depuis 1973. Et en fait, il a recolonisé toute l'Italie. L'Italie étant une péninsule, et ben il est remonté par le Mercantour, puis il a pris tout l'arc alpin. Depuis 1992, il a pris la majorité du territoire sur les zones qu'on appelle des trames vertes, des zones. La France est belle, la France, il y a des rivières, il y a des forêts, et donc des loups se sont dispersés peu à peu et ont recolonisé le territoire. Donc ce loup, c'est un loup qui est seul, qui est ce qu'on appelle un loup en dispersion parce qu'il cherche une
femelle. Le loup normand. Hein.
Voilà, le loup normand, voilà. Et la Normandie est une belle région.
Ça, c'est vrai. Alors,
donc, de ce fait, il s'est dit que c'était peut-être un bon endroit. Et après, la problématique qu'il y a, évidemment, c'est qu'il a mangé quelques brebis.
Oui.
Parce que le loup, comme pour nous, hein, a besoin de manger. Alors, je pense qu'on s'en serait moins aperçu s'il s'était contenté de quelques cerfs et chevreuils. Voilà, mais on l'a vu, il y a des indices de présence et ça a été confirmé. Mais ce n'est pas inattendu. Hein. Partout en France où on a ce qu'on appelle des corridors biologiques ou des trames vertes, on peut voir
du loup. Donc finalement, il y en a dans toutes les régions françaises des corridors biologiques.
Ah oui, absolument. Il n'y a pas du loup partout en France parce qu'il y a des endroits qu'on dit trop anthropisés, c'est-à-dire la présence de l'homme est trop importante, qui perturberait trop justement le trajet des loups. Tout au long de l'année, on prélève des loups malheureusement morts. Alors c'est normal, c'est la vie. Hein. Pareil avec des accidents d'autoroute, des accidents d'avalanche, des accidents sur des portions incongrues où justement le loup essaye de passer et ça ne fonctionne pas parce que justement la présence humaine est trop importante. Mais certains loups plus tenaces, plus sauvages, plus entreprenants, ben, s'éloignent de leur point d'origine, hein, qui était l'Italie, pour aller de plus en plus loin. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la vie au sein d'une meute ? Parce que là, on parle d'un loup solitaire. Normalement, les loups vivent en meute. Pourquoi d'un seul coup, un loup va se retrouver seul ?
Alors oui, une meute, dans la définition biologique d'une meute, en fait, c'est trois individus qui restent à un endroit donné, sur un territoire donné. C'est comme nous, lorsqu'on achète une maison, à un moment donné, ça va être une famille avec un enfant. Il va y avoir des naissances d'individus. Et au bout d'un moment, dans l'appartement, s'il y a trop de monde, les ados, à 20 ans, ils vont faire leur vie.
Oui, les ados, voilà. On les met pas dehors, c'est quand ils sont un peu plus grands.
Il y a des tanguis aussi chez les loups, hein. Tanguis, on le voit. Mais donc des jeunes loups en dispersion, c'est des loups qui veulent créer une meute ou simplement découvrir un autre territoire parce que l'écosystème, c'est-à-dire ce qu'il y a à manger pour la meute de loups, n'est plus assez suffisant, le territoire n'est plus assez suffisant. Il peut y avoir également des tensions avec le couple alpha, le couple mâle-femelle reproducteur, avec les autres congénères.
Donc, parce que la meute, elle est constituée de combien de loups généralement ?
Alors, minimum 3. La définition, c'est 3, c'est-à-dire 2 adultes et puis une portée, oui, avec un individu qui va rester. La plupart du temps, en France, les meutes sont autour de 4 à 7 individus. Voilà, ça va dépendre des régions. On va dire que la moyenne, ça va être 5. 5.
D'accord. 6. Et un seul couple se reproduit ?
Un seul couple se reproduit, a priori, c'est vraiment la grande généralité. On peut avoir quelques finasseries, c'est-à-dire quand il y a des problèmes de hiérarchie, enfin, le couple va vieillir, il y a des jeunes qui vont vouloir intervenir, et parfois on a deux couples qui vont reproduire, ça pose des problèmes, parce que souvent entre eux, après, il va y avoir des jeunes loups qui vont être tués dans la tanière. Mais la majorité du temps, pour justement adapter le nombre de loups au territoire, à l'écosystème et à l'alimentation, en fait, il n'y a qu'un couple qui se reproduit. Donc ce couple se reproduit, et quand on arrive aux chiffres assez fatidiques de 5, 6, 7 individus, la plupart du temps, donc ces jeunes adultes qui ont entre 2 et 4 ans, ça peut commencer à 18 mois, mais c'est souvent entre 2 et 4 ans, vont partir et chercher un autre territoire où se poser.
Est-ce qu'on a une idée, Véronique, de l'espace nécessaire pour une meute de loups ?
Oui, en fait, on va dire que c'est un carré de 100 km sur 100 km, avec vraiment une zone réelle de 30 sur 30. Ça va être vraiment leur grande zone de vie. Et le territoire de chasse peut aller à 100 km sur 100 km. Voilà.
Et plusieurs meutes peuvent se partager un peu le même territoire, ou est-ce qu'il y a vraiment, ou est-ce qu'ils sont extrêmement territoriaux, justement ?
Alors, ils sont très territoriaux, mais par exemple, sur des zones comme chez nous, dans le Mercantour, où on a bientôt jusqu'à 7 meutes de loups sur un territoire, donc on va dire sur les Alpes-Maritimes sauvages, hein, sur le haut de la Riviera, on a plusieurs meutes, mais chacun a un cœur de meute qu'il ne partage pas. Voilà. Mm-hmm. Il va y avoir des combats.
Il y a des zones de frontières où on accepte, on tolère à peu près, puis il y a le cœur, comme vous disiez, de leur territoire, voilà, où là on ne partage pas. Bertrand souhaitait réagir au standard de Sud Radio. Bonjour Bertrand.
Bonjour mesdames, bonjour à tous les auditeurs, madame. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris l'émission en cours, donc je ne sais pas trop ce qu'elle dit vraiment depuis, au-delà de 5 minutes. Et donc je vais peut-être faire des redites.
Mais c'est pas grave, Bertrand. Vous savez, vous avez la parole sur Sud Radio, on vous écoute. Voilà.
Je vais peut-être dire des bêtises, mais pour moi, je suis contre la chasse au loup systématique, comme la chasse à l'ours d'ailleurs. Je pense que si on veut que le loup reste à sa place sur certains domaines, il faut respecter l'écosystème. Or, l'écosystème en France, je crois qu'il est inférieur à 1%. Donc, arrêtons les battues, arrêtons la chasse à l'ours, la chasse au renard, la chasse à tous ces animaux, mais ils sont multiples.
Donc vous, Bertrand, le loup n'est pas un souci pour vous, il ne vous dérange pas. Écoutez, vous n'avez pas peur de la présence du loup sur le territoire français.
Voilà, moi, non seulement il ne me dérange pas, mais il est certain qu'il y a des dégâts dans les troupeaux de brebis. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ce sont des loups ou est-ce que ce sont des chiens errants ?
Ah ben, ce ne sont pas toujours les loups, ça c'est certain.
Voilà. Et il est prouvé que les loups étendent leur territoire parce qu'on ne leur laisse pas un territoire suffisamment consacré. C'est la même chose pour les plantes d'ailleurs. Hein. Que ce soit les plantes ou les animaux, c'est parce qu'on ne respecte pas un écosystème que les territoires s'étendent.
Qu'est-ce qu'on peut répondre, Véronique, à notre auditeur Bertrand ? Est-ce qu'aujourd'hui, le loup a suffisamment, finalement, de ressources sur le territoire français ? Visiblement, peut-être que oui, vu qu'il est de plus en plus présent, non ?
Oui, alors d'abord j'aime la sensibilité de ce monsieur, et juste pour rebondir sur ce qu'il a appelé l'écosystème de 1%, en fait ça s'appelle les aires protégées. Je pense qu'il a dû lire quelque chose autour de, en France, on a autour de 2% en fait d'aires protégées, strictement protégées. Voilà, et c'est pas beaucoup. Et en revanche, on en a un peu plus en pourcentage avec toutes les zones cœur de parcs nationaux. Voilà. Mmh. Et c'est pour ça que justement le loup est très bien implanté sur tout l'arc alpin et dans le Jura, où là on a vraiment les meutes. En fait, on a 80 meutes qui sont quasiment que sur l'arc alpin et le Jura, parce que là ils y sont bien. Voilà. Et ces animaux qui se dispersent, ben, cherchent d'autres petits corridors, de petits écosystèmes pour survivre. Et c'est vrai qu'il y a des moyens de cohabiter avec l'animal sauvage. Et en ce moment, on parle beaucoup d'écologie. Et c'est vrai que l'écologie est liée au maintien de la biodiversité. Mmh. Et évidemment qu'il va falloir trouver des solutions pour les éleveurs.
Les éleveurs ne pensent pas ça. Hein. Enfin, en tout cas, tous les éleveurs ne pensent pas ça. Parce qu'ils ne sont pas non plus tous contre le loup.
Voilà, et il faut trouver évidemment des solutions d'accompagnement pour les aider, faire des analyses de vulnérabilité, pourquoi. Il y a des évolutions, hein, on entend toujours crier au loup par rapport de la plupart des éleveurs, mais les éleveurs avec qui on travaille trouvent des solutions, c'est compliqué. Hein,
quelles sont les solutions les plus efficaces, Véronique, pour justement préserver les troupeaux ?
Il n'y en a aucune qui est complètement efficace, mais les plus efficaces, c'est vraiment la présence humaine, les chiens de protection. Et vraiment, ce sont deux facteurs incontournables. Après, les enclos sont possibles lorsqu'on est en zone de plaine. Mais en zone de montagne, justement, Arc Alpin et Jura, où les animaux sont en estive, sont en hauteur, mm-hmm. on ne peut pas remettre systématiquement les animaux dans des zones de couchade, qu'on appelle ça, parce que sinon, il y a un surpâturage de nuit et il y a une terre hyper azotée, on abîmerait les sols. Voilà, donc il n'y a que le mouvement des chiens qui va accompagner le troupeau et la présence humaine. Les zones de plaine, c'est possible.
Il y a quelques semaines, dans cette émission, nous avions le témoignage d'un berger, justement, qui nous expliquait que oui, il faut faire avec le loup et que c'est comme ça et qu'il faut réapprendre finalement ce métier et l'adapter à la présence du loup. Mais il nous disait aussi quelque chose de très étonnant, c'est que même en plein jour, le loup n'a plus peur, n'a pas peur de l'homme, n'a pas peur des chiens et que finalement, ça devient quand même très compliqué.
Absolument. Mais en fait, en ce moment, on est en train de faire une thèse sur les tempéraments du loup. C'est-à-dire que c'est comme chez nous. Le loup est un animal intelligent qui s'adapte à tout. Donc il y a des loups qui vont comprendre que la présence humaine n'est pas complètement efficace. Et s'ils ont faim, s'ils ont envie, ils vont s'approcher. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est vrai que rien ne marche à 100%. Et c'est un vrai stress pour un éleveur ovin qui veut faire du travail de qualité, qui va nous produire des brebis, de la viande, du fromage. Donc il faut écouter quand même cette détresse-là. Mais on ne doit pas rentrer systématiquement dans la régulation ou dans le tir non réfléchi. Dans les solutions aussi, malheureusement, il y a du tir. Et de plus en plus, on demande que le tir soit en fait... corrélé à des mesures de protection qualitatives et objectivées, pour pas qu'il y ait justement du tir de loup selon des émois, mais selon des réalités de proximité compliquées.
Oui, ça ne doit pas être finalement l'émoi médiatique notamment qui doit faire la part belle au tir de loup. Merci, merci infiniment à Bertrand de nous avoir donné son point de vue sur le loup. Merci à vous, docteur Véronique Ludeny, pour votre implication auprès de la faune sauvage et notamment auprès des loups. Merci pour toutes ces explications. On marque à nouveau une courte pause et on se retrouvera dans quelques minutes pour découvrir des chiens de sauvetage en mer, figurez-vous.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Vous qui êtes peut-être déjà en vacances ou qui allez prendre la route des vacances, eh bien, ce matin, vous allez découvrir une activité tout à fait particulière que l'on peut pratiquer avec son chien. Alors, peut-être pas avec n'importe quel chien, on va voir ça dans quelques instants en compagnie de mon invité. Il s'agit du sauvetage aquatique. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Balzer, président du Club Canin de sauvetage aquatique. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors peut-être faut-il déjà recadrer un petit peu les choses. Le sauvetage aquatique, ça peut se pratiquer avec n'importe quel chien ou est-ce qu'il y a quand même des races qui sont plus adéquates que d'autres ?
Alors sur le principe, on pourrait le faire avec n'importe quelle race de chien. Évidemment, il y a des races plus adaptées comme le Terre-Neuve, le Landseer, le Golden Retriever, c'est-à-dire des chiens déjà qui sont relativement puissants et puis qui aiment l'eau. Mais sur le principe, on pourrait apprendre à n'importe quel chien. Au sein de nos clubs, on a un caniche royal, on a des chiens qui sont un petit peu plus petits, mais évidemment, il faut un certain gabarit quand même pour pouvoir tirer un bateau, tirer une personne et la ramener au bord.
Les races que vous nous citez, les races principalement utilisées sont donc des chiens qui aiment l'eau, qui ont de vraies aptitudes de nageurs également.
Oui, si on prend l'exemple du Terre-Neuve ou du Landseer, ce sont vraiment des chiens qui sont conformés pour nager. Même si on prend le Labrador, le Golden Retriever aussi, ils ont des pattes légèrement palmées et la surface de ces pattes permettent d'avoir une meilleure prise dans l'eau et donc de pouvoir nager plus efficacement.
Et puis ils ont un pelage aussi qui vaut pour véritable combinaison de plongée pour certains d'entre eux.
Ah, le Terre-Neuve, oui, même au bout de 10 minutes dans l'eau, très souvent la peau est encore sèche. Ils ont un vrai poil, finalement, comme les canards.
Alors, en quoi consiste l'activité d'un club canin de sauvetage aquatique ? Racontez-nous, parce que je ne suis pas certaine que beaucoup de nos auditeurs connaissent cette possibilité.
Alors, le sauvetage aquatique, au sens de nos clubs, de la Société Centrale Canine, c'est vraiment une activité canine. C'est-à-dire que notre but, c'est de faire des concours avec nos chiens. Nous ne sommes pas des sauveteurs professionnels. C'est-à-dire que les maîtres ne sont pas formés. Les chiens ont souvent des compétences suffisantes pour le faire, mais les maîtres ne sont pas formés. Mmh. Sinon, il faut s'orienter plus vers une activité de pompier, etc., où il y a quelques rares équipes cynophiles.
Voilà, il faut préciser qu'il y a quelques plages en France, hein, très peu, mais quelques plages en France qui ont des maîtres nageurs sauveteurs accompagnés de chiens de sauvetage en mer.
Voilà, mais ça reste vraiment anecdotique, alors que au sein de l'association canine, nos clubs, nous avons 500 chiens licenciés qui, eux, font des concours de sauvetage à l'eau, c'est-à-dire qu'ils concourent entre eux pour savoir lequel sera le plus efficace en cas de sauvetage. Mais donc, ce sont des exercices bien codifiés chez nous.
Alors justement, en quoi consistent finalement les épreuves auxquelles ils doivent se soumettre ?
Alors, il y a plusieurs types d'épreuves. C'est un petit peu comme au ski avec les étoiles. Eh bien, chez nous, c'est des degrés. Il y a plusieurs degrés. Le premier degré, le plus simple, c'est déjà le chien doit aller chercher un jouet dans l'eau, doit aller vers un nageur qui fait semblant de se noyer et chercher un jouet. Et puis, les épreuves les plus compliquées dans les degrés les plus élevés, eh bien, c'est par exemple un bateau à la dérive. C'est-à-dire qu'il y a un bateau, il n'y a personne dedans, il y a juste une petite corde qui pend devant le bateau et le chien doit aller chercher le bateau.
C'est-à-dire que le chien va remorquer le bateau à la force de sa mâchoire d'abord et puis de sa nage.
Tout à fait. Il part du bord où il y a son maître qui lui dit « Regarde le bateau là-bas qui est à 50 mètres » et le chien va directement chercher le bateau. Il faut qu'il fasse le tour autour du bateau pour trouver où est la petite corde qui dépasse. Bon, c'est de l'apprentissage, hein. C'est par le jeu qu'on fait ça. Et puis après, on peut chercher des nageurs en détresse, certains qui crient. Et donc le nageur s'accroche au harnais du chien. Et parfois, on utilise aussi des nageurs qui font semblant d'être inanimés. Et là, le chien doit prendre le poignet du nageur et le ramener délicatement, sans faire mal. Voilà, tout ça, c'est des exercices qu'on apprend aux chiens.
Alors, vous avez précisé quelque chose d'essentiel, c'est que le chien fait ça en s'amusant. Hein, on est bien d'accord que pour le chien, ça doit être un plaisir.
Ça doit être un plaisir et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça doit être un plaisir et ça doit le rester. Le jour où le chien ne s'amuse plus, il faut arrêter. Mais si vous regardez beaucoup de chiens, même les chiens d'avalanche, quand ils s'entraînent, ils cherchent des jouets. Et la récompense, c'est le jouet, c'est le câlin du maître et le jouet. Mmh. Et ben, en sauvetage à l'eau, c'est la même chose. La récompense, c'est systématiquement un jouet, un gros câlin, et il faut que le chien ait envie de le faire, sinon ça ne nous intéresse pas.
À partir de quel âge on peut participer à ce type d'activité ? Quel âge pour le chien, évidemment ?
Pour le chien, oui. Bah, déjà, pour l'adulte, nous, on prend des enfants dans les clubs. Alors, pas trop jeunes, hein, parce qu'il faut quand même que l'enfant puisse nager et puis aller dans l'eau avec son chien. Mais déjà, dès l'âge de 10-14 ans, on les accepte dans le club, surtout si les parents sont présents. Pour le chien, plus c'est simple de leur apprendre des choses. Donc, même un chiot de 3 mois, on peut déjà lui apprendre à aller chercher un petit jouet, d'apporter une corde. Évidemment, on ne s'accroche pas sur le chien. Un chiot de 3 mois, on ne peut pas lui demander de tirer un bateau ou de tirer un humain. Mais alors en concours, les premières épreuves, c'est à l'âge d'un an.
D'accord, voilà. Donc des chiens quand même qui sont assez jeunes. J'imagine que ça nécessite un entraînement très régulier. C'est pas simplement quelques semaines l'été quand il fait beau.
Clairement, oui, et c'est beaucoup de travail, toujours amusant parce qu'on voit la progression du chien, mais on commence généralement, notre club est basé dans l'Allier, donc il fait un peu froid quand même l'hiver, on commence généralement début avril et on arrête fin octobre, avec des combinaisons dans les plans d'eau, parce que quand l'eau est à 10 degrés, le chien n'a pas froid, mais les maîtres ont vite froid. Quand même.
Oui, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est du sauvetage aquatique et pas du sauvetage en mer, c'est-à-dire que vous pouvez le pratiquer sur les plans d'eau et aussi en mer.
Voilà, il y a les deux.
Que.
Alors, voilà, et pas que. Partout où il y a de l'eau. Alors, en mer, c'est évidemment beaucoup plus agréable parce que c'est les plages, c'est le sable chaud et l'eau salée qui est plus simple aussi pour le chien parce que ça flotte mieux. Mais on peut le faire dans des lacs. Nous qui sommes au centre de la France, évidemment, c'est un peu compliqué d'aller en mer. Même si on se déplace pour aller faire des concours en mer, on prend nos voitures, les chiens, et puis on va faire des concours au bord de mer.
J'imagine que les Français ne sont pas les seuls à pratiquer le sauvetage aquatique.
Et la France est d'ailleurs le pays à l'origine d'un championnat européen. Il y a des équipes allemandes, italiennes, belges, luxembourgeoises. Il y a beaucoup de pays qui se mettent au sauvetage à l'eau. Et puis la France est à l'origine justement de ce championnat d'Europe qu'on a essayé de mettre en place il y a maintenant 2 ans. Ça aurait dû être la 3e année consécutive où on fait ce championnat d'Europe, évidemment avec le virus.
Le programme des compétitions est un peu perturbé cette année.
complètement perturbé. Il n'y a eu aucune compétition cette année et vraisemblablement il y en aura difficilement parce que ben, sur les bateaux on n'arrive pas à avoir une distanciation sociale correcte. Donc les épreuves, les entraînements se poursuivent dans les clubs, mais les concours nationaux non.
Dernier conseil, Alexandre Balzer, puisque vous êtes le président du club canin de sauvetage aquatique, donc recensé auprès de la Société Centrale Canine, quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait s'inscrire dans un club de ce type, comment doit-il procéder ?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Internet. Il tape la Commission nationale de sauvetage aquatique. Et puis, il y a une carte des clubs disponibles en France. Et puis, il suffit de contacter directement le responsable du club et on se fera un plus grand plaisir d'accueillir ses futurs adhérents, ses futurs chiens. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir de nouveaux participants à nos épreuves.
Eh bien, merci à vous, Alexandre, pour toutes ces informations extrêmement rafraîchissantes et ça fait beaucoup de bien. Merci. Je vous souhaite
merci
à tous.
Beaucoup.
Merci, Alexandre. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. J'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison de Vos Animaux. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le compte Pets and Wild. Et puis, profitez bien de vos vacances. Détendez-vous, mais restez prudents surtout. Allez, je vous embrasse. Ciao.